Doudou qui accélère, Jean-Ben Doudou qui termine, Jean-Ben Doudou est champion du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga. Attention,
Saga Africa, ambiance de la
France. Has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez les podcasts sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Pendant ces Jeux Olympiques, nous continuons à militer pour un véritable héritage sur le plan social, mais nous souhaitons aussi mettre en valeur les héros de l'ombre sans qui cet événement planétaire ne pourra être réussi, ni même se tenir. Ils sont 45 000 volontaires sur Paris 2024, et tous les spectateurs louent leur efficacité et le sourire de ceux qu'ils voient, quel que soit le site. Mais ils ont bien d'autres missions, vous allez en découvrir quelques-unes grâce aux bénévoles de choc que nous recevons. Nous parlerons de cet engagement citoyen, de leur expérience en la matière, mais aussi de leur investissement sur une cause précieuse pour nous, à Vivons Sport, la place des femmes dans le sport. Avec nous, donc, trois invités en studio. Nous sommes ainsi heureux de recevoir Anne Douézy. Bonsoir Anne.
Bonsoir Karine.
Tu es volontaire aux Jeux Olympiques sur le site de tennis de table, avant de l'être aux Jeux Paralympiques sur le site d'équitation à Versailles. Tu es secrétaire de la section tennis de table du Levallois Sporting Club, l'un des plus gros clubs de tennis de table en France. On t'a d'ailleurs remis le mérite de la femme dirigeante du comité départemental des Hauts-de-Seine de tennis de table cette année. Tu es arbitre régional de ping-pong. Je rappelle que les pongistes parlent de ping-pong et même de ping, hein, donc ça n'a rien de péjoratif. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir Sophie Courrouble. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Karine.
Tu as été volontaire depuis le 8 juin et jusqu'au 1er août aux accréditations, mais tu seras au Marathon pour tous et tu seras également aux Jeux Paralympiques, au Parabad. Tu es volontaire pro sur l'événementiel sportif, même si c'est un oxymore et faux au sens littoral. En effet, tu as un métier en dehors du sport et tu n'es pas rémunéré. Mais depuis l'Euro 2016, tu fais régulièrement, plusieurs fois par mois, des missions sur des événements, des grands événements sportifs internationaux aux événements locaux. Et l'on verra que tu as d'autres casse-têtes bénévoles dans le sport. Et nous avons enfin la chance d'avoir avec nous Dominique Le Breton. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Karine.
Tu es volontaire aux Jeux Olympiques, team leader, donc chef d'équipe à Bercy, site de gymnastique, trampoline et basket, et tu l'as été à la cérémonie d'ouverture. Mais tu es aussi vice-président du Paris FC, en charge de l'équipe féminine, qui vient de finir une très grosse saison en Ligue des Champions et en D1 à Arkema. Et tu as été directeur des sports au conseil départemental de l'Essonne. Un grand merci à Jérôme Sorel pour la réalisation de cette émission. Elle est enregistrée le 2 août. Donc on va commencer avec vos missions à tous sur les Jeux. Et je crois que par ordre chronologique, c'est sûrement les accréditations qu'il nous faut d'abord donner. Donc Sophie, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste, ce poste des accréditations? Combien de personnes viennent rechercher leurs accréditations?
Alors, effectivement, le poste des accréditations est le premier postulat d'entrée pour les Jeux Olympiques pour n'importe quelle personne qui va intervenir sur les Jeux Olympiques, que ça soit évidemment les sportifs, les délégations, la presse, toutes les personnes de la logistique et évidemment les 45 000 bénévoles qui interviennent et bien d'autres. Le centre des accréditations s'est ouvert mi-mai. Il y a à la fois le centre des accréditations et de distribution des uniformes pour un certain nombre de personnes, donc les bénévoles, les arbitres, les officiels. Et donc nous sommes une centaine de bénévoles qui sommes attachés à ce centre, avec trois missions particulières, donc l'accueil et la vérification de l'identité très importante de chaque personne qui vient retirer son accréditation. Une fois que l'identité est vérifiée, nous pouvons lancer l'impression de cette accréditation avec une validation de la photo qui parfois a été à refaire, mais tout se passe tout se passe très bien. Donc depuis le début du mois de juillet, principalement, on a beaucoup de monde par jour. Il y a eu parfois un petit peu de queue, mais toujours dans la bonne humeur. Et à la fois des personnes qui faisaient la queue, et puis je pense des bénévoles qui ont accueilli toutes les personnes qui sont venues chercher les accréditations. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu en back-office. On n'est pas sur les aires de compétition directement, mais en fait, on est pleinement dans les jeux avec tout un tas de personnes qu'on accueille. C'est un moment très très sympa en fait à faire.
Tu as peut-être reçu Dominique et Anne. Vous avez été bien accueillis tous les deux au sacré.
Très très bien accueillis. Et moi, j'ai pas mis beaucoup de temps pour obtenir et mon accrédite et la tenue.
Moi, j'ai dû revenir trois fois, donc il n'y a voilà. pas eu de problème. Donc surtout la troisième fois, c'est parce qu'on a reçu 2-3 jours avant le déclic pour aller chercher l'accréditation pour la cérémonie d'ouverture. Et donc, il a fallu revenir, bien sûr.
Mais ce n'était pas à cause de rater les trois fois.
Non.
Ça se passe en français alors, comment ça se passe
alors,
parce que je pense qu'on reçoit pas que des Français, c'est pour ça que je pose la question.
Tout à fait, effectivement, les trois quarts du temps, c'est en français, mais sinon, on utilise pas mal l'anglais. Après, ça reste un anglais que j'appelle, moi, l'anglais touriste. Donc, du coup, qui a enfin, un anglais...
Je sais que tu parles très bien anglais. Donc,
Mais voilà, mais du coup, en tout cas, voilà, on arrive effectivement à très bien communiquer et la plupart du temps, c'est en anglais. J'ai eu une fois, effectivement, une personne d'origine, enfin de Roumanie, et qui ne parlait ni français, ni anglais, ni espagnol. Donc, bon, c'était... on a réussi à sortir son accréditation quand même. C'était un petit peu plus ardu, mais...
Et entre vous, il n'y a que des Français ou il y a aussi...
Non. En fait, sur la centaine de bénévoles, je vais dire qu'on a à peu près les trois quarts de Français, un quart d'étrangers et principalement, et j'ai été très surprise, beaucoup d'Amérique du Sud et pas mal de Brésiliens et qui m'ont expliqué qu'en fait, depuis Rio 2016, il y a un énorme engagement des Brésiliens sur les événements sportifs. Et donc, il y a des Brésiliens qui sont là pour 2 ou 3 mois. Ça m'a surprise, mais effectivement... il y a pas mal d'étrangers qui sont avec nous.
Donc peut-être que vous aurez ce déclic, vous aussi, et qu'on vous retrouvera, même si je sais que Dominique, lui, il a déjà été sur d'autres. Et comme ça ne suffisait pas, tu as décidé d'aller aussi travailler de nuit ?
Oui, enfin, on m'a proposé d'aller...
On t'a proposé, t'as dit oui.
Oui, voilà, exactement. En fait, étant donné que je suis bénévole parfois sur des événements d'athlétisme sur la région parisienne, un groupe de bénévoles m'a proposé effectivement de participer au Marathon pour tous. Alors, non pas pour le courir, parce que je serais bien incapable, mais pour participer au ravitaillement. Donc, je suis positionnée au 20e kilomètre. Donc, j'essaie de faire des calculs, parce que potentiellement, on m'a dit que ça se termine à 4h du matin. J'espère que le 20e kilomètre, peut-être qu'à 2h du matin, tous les athlètes seront passés. Et donc, voilà, du coup, je serai située vers le château de Versailles, plus ou moins, puisque c'est à peu près là que le 20e kilomètre se trouve du Marathon pour tous. Donc, il y a lieu la veille du marathon avec les athlètes olympiques.
Et ça, on peut rappeler que c'est une première, hein, où des amateurs vont courir.
Complètement. Quoi.
Des amateurs complets, je veux dire.
Oui. Des amateurs.
Si tous les coureurs ne gagnent pas bien leur vie, mais voilà.
Oui.
Des gens qui ont gagné le dossard.
Exactement. Exactement.
Alors toi, si je reprends mon ordre chronologique, tu disais tu étais sur la préparation de la cérémonie d'ouverture, Dominique, donc c'est toi le suivant.
Oui, alors, ça a été une bonne expérience. J'avais jamais fait de cérémonie d'ouverture, du moins dans le côté animation, et on m'avait confié, du moins avec une équipe, bien sûr, parce que on voit que l'équipe de bénévoles, c'est une équipe avant tout, l'organisation de la tribune du pont de Carrousel, ça, c'est une tribune où il y avait 6000 personnes et tout, donc il a fallu organiser, du moins comment s'organiser sur les deux berges de la Seine, sur la rive gauche et la rive droite, parce que les spectateurs pouvaient arriver des deux côtés, et puis de savoir comment on pouvait aussi créer une animation à chaque bateau qui pouvait... l'organisation nous a donné des petits drapeaux, donc c'était plus facile pour faire l'animation. Et puis, bon, le public était très, très chaleureux. Un public énormément de personnes étrangères. Beaucoup, je dirais 80% grosso modo, composés de tous les pays qui viennent sous les JO. Les Français ont été, du moins les Européens ou les Français, plus ou moins, étaient plutôt sur les berges que sur les tribunes de sur les ponts. Et donc, c'était une organisation très, très intéressante. Puis après, le contact, c'est vrai que ça a été très virulent. La pluie, malheureusement, a un peu gâché un peu la fête. surtout sur la deuxième partie. Première partie de préparation a été bien. Dernière partie, au moment où le premier bateau est parti, on a pris la pluie jusqu'à la chanson de Céline Dion, quoi. Et donc, ça a été très intéressant. Et là, bien sûr, il fallait autant parler espagnol, voire portugais quand il y avait les Brésiliens, autant il fallait parler anglais parce qu'il y avait beaucoup d'Américains. Et on parle pas chinois, ni sous la torture, ni sans rien. Mais ça a été parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'Asiatiques et beaucoup, beaucoup de Chinois, et donc il a fallu aussi les accueillir, et que c'était pas forcément
un
public facile, parce que c'est pas un public qui est là-dedans dans une organisation. Moi, j'ai fait les Jeux de Pékin, c'était pour les Jeux de Pékin, ils avaient plein de préconisations pour la population, de pas passer devant, de pas faire ci, de pas faire ça, parce qu'ils ont l'habitude de tout faire et de tout faire en même temps, donc c'est une cacophonie. Donc là, ça s'est bien passé, il y a pas eu de problème. Et donc c'était
c'était la première mission. Et puis maintenant tu es à Bercy.
Ouais. Et à Bercy, j'y suis tout à l'heure, hein, parce que également tout à l'heure pour l'organisation des tribunes, et là aujourd'hui pour vérifier et puis amener à faire que les supporters, les spectateurs puissent être bien dirigés, bien organisés et bien encadrés et tout, donc là-dessus. Et puis l'organisation des équipes qui entourent les gymnastes pour les amener sur les différents praticables, etc., etc. Donc là, c'est aussi intéressant. Et puis ce qui est intéressant à Bercy, c'est que par rapport au jour dernier et la semaine dernière, pour faire fort, c'est climatisé, quoi.
Par contre, ça, c'est ce qui est facile. Ouais. Par contre, il y a des sacrés challenges aussi, de nuit aussi, avec les changements de salle.
On y arrive, là, parce que c'est en ce moment que le basket va se mettre en place et tout.
Il peut y avoir des décalages. Je rappelle que l'émission est enregistrée le 2 août.
Oui, mais t'as vu, j'ai fait attention.
Oui. Vas-y.
C'est-à-dire que la nuit, c'est-à-dire que les concours s'arrêtent vers 21h, remise des médailles à peu près. Et là, on va passer d'une salle de gymnastique en salle de trampoline. On est passé d'une salle de gymnastique en salle de trampoline.
Je me suis trompé parce qu'il y a le switch du trampoline.
Il y a le switch du trampoline. Et le soir même, il y a le switch du basket, puisque les quarts de finale sont mercredi. Et donc, il va falloir qu'on soit prêt et tout. Et donc, là, c'est d'un point de vue logistique, c'est un super challenge. Il n'y a pas de problème, les équipes sont rodées et tout là-dessus, mais c'est toujours très intéressant de faire partie de voir la remarque, de voir comment les gens bossent, parce que les premiers quarts de finale sont à 10h du matin, quoi. Donc on n'a pas le droit, ça veut dire 10h du matin, l'entraînement, et les équipes ne pourront pas découvrir Bercy avant de venir, alors que d'habitude il y a toujours un petit laps de temps de découverte à la gym, 2 jours avant le départ des concours, les gymnastes étaient venus voir Bercy, pas utiliser, mais au moins voir Bercy, là ils pourront pas le voir.
Alors on va passer à notre troisième bénévole. Donc, est-ce que tu peux, toi, nous parler de tes missions également, Michel ?
Alors, mes missions, je suis équipier d'informations administratives vis-à-vis des athlètes. Donc, notre mission est surtout de donner les résultats, d'afficher les réservations des tables pour les entraînements, pour le warm-up, et de donner, évidemment, et d'afficher tous les résultats au fur et à mesure des matchs qui se déroule. Et on fait beaucoup d'autres choses aussi, parce que en fonction des besoins des autres équipes, on peut très bien aussi, j'ai passé beaucoup de temps hier à donner les serviettes avant l'entrée dans le field of play pour les joueurs, et de les récupérer évidemment après. Terrain de jeu où se déroulent les matchs. Et puis on a aussi un rôle, il y a des sièges attribués aux athlètes qui viennent voir leurs collègues, et donc on fait en sorte de leur trouver des places quand ils en ont besoin.
Alors, moi, je te fais traduire, mais toi, je pense que tu as plus... Alors, on a des Français qui brillent, mais il y a aussi des étrangers. Donc, je pense que tout ne se fait pas en français non plus.
Non, non, on se fait beaucoup en anglais et on a dans l'équipe deux jeunes chinoises qui, elles, parlent couramment chinois, ce qui facilite les rapports avec, avec les Chinois, qu'ils soient Chine, Hong Kong ou Taipei, puisqu'on les voit tous.
Alors, au tennis de table, je me suis permise d'interroger des spectateurs pour savoir ce qu'ils pensaient de nos bénévoles sur les sites. Certains avaient vu d'autres disciplines. On les écoute.
Moi, je fais une émission sur les bénévoles de Paris 2024. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'accueil que vous avez eu des bénévoles ?
L'accueil est super. Donc, que ce soit le premier jour, deuxième jour, voire même aujourd'hui, que ce soit à l'extérieur, donc autour des stations métro, ou bien ici, donc à l'entrée des arénas. Hein.
C'est très bien organisé.
Ah oui, ouais. Ah, oui, très souriant.
Est-ce que ça donne envie d'être bénévole plus tard sur les événements ?
Oui.
Oui.
Moi, ça me donne envie.
Oui, t'aimerais bien ?
Oui.
Et t'as quel âge ?
J'ai 12 ans.
Cause commune, causecommune.fm.
Vous avez rencontré des bénévoles. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des bénévoles ?
L'accueil, il est formidable. Et on nous a dit d'arriver 1h30 à l'avance et c'est vraiment tout indiqué. Ils indiquent tout. Ils sont avenants, joyeux, gentils.
C'est extrêmement fluide. Oui. Non, vraiment, c'est une belle organisation. Et
ils sont bénévoles, sympas,
ces bénévoles. Ah ouais, vraiment. On sent tout de suite qu'ils sont là par envie, par passion et la partage avec leur gentillesse.
Et moi, je me disais, je l'aurais fait.
Ça donne envie.
C'est bien, ça donne envie.
Alors, comme vous le voyez, vous créez des vocations, ça c'est super. Même question pour tous les trois, j'aimerais savoir si vous avez connu des moments forts déjà sur ces jeux, en amont ou pendant les jeux. Sophie ?
Ah ben, énormément de moments forts et de moments clés. Moi, je vais en retenir au moins un. C'était simplement déjà le 23 mars, la convention des bénévoles qui s'est déroulée à la U Arena. Et c'était le premier lancement des jeux pour nous, de rencontrer cette masse de bénévoles. Parce qu'un chiffre, c'est 30 000 sur les JO et 45 000 en tout avec les Paralympiques. Mais de voir physiquement la U Arena remplie de bénévoles comme nous, c'était pour moi le lancement des jeux. Et je revois encore l'image de Tony Estanguet qui arrive sur scène pour ouvrir la cérémonie, cette cérémonie-là. Et on voit de la vraie émotion dans les yeux de Tony Estanguet et qui dit « Mais ça y est, c'est réel. C'est la première chose réelle que je vois des JO. » C'est ce qu'il a dit. Et voilà, ça a été mon premier moment fort. Et puis depuis, ça s'enchaîne.
Anne ?
Alors moi, premier moment fort, c'était le 19 juillet, la journée de formation sur site, où on a pu découvrir là où on allait évoluer. Et puis ensuite, pour moi, c'était de voir les frères Lebrun de très près et de suivre les matchs en direct. C'est juste, il y a une ambiance absolument fabuleuse dans cette salle et c'est que du bonheur, quoi.
Et Dominique ?
Moi, il y a plusieurs temps forts. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir visiter les installations, celles qui étaient basées en Paris, Champ de Mars et tout ça. Et je trouve ça très, très fort, l'organisation de ces installations qui sont éphémères au sein de Paris. Donc ça, c'est vraiment très joli à voir. Et là, ça vous prend au trip d'entrée de jeu, même s'il n'y a pas un spectateur, il n'y a pas un sportif. Et donc... rendre Paris au sport, moi je trouvais ça génial. J'ai cru à un moment donné, il y avait quand même, c'était beaucoup décrié par des médias interposés, et je pense que tout le monde maintenant se met que c'est quand même une belle réussite. Deuxième point, dans la cérémonie d'ouverture, moi j'étais sur le pont du Carrousel et à un moment donné j'ai dû aller sur la passerelle pour m'occuper de la garde républicaine et il y avait une chanteuse qui était là et tout le monde prenait les photos et moi-même je ne savais pas qui était la chanteuse. Donc
on en avait parlé
mais bon on en avait parlé de plusieurs à part Céline Dion que je pouvais reconnaître, les autres j'avais un petit peu de mal, mais c'était quand même sympa de pouvoir côtoyer et j'ai trouvé d'ailleurs à travers cette chanteuse ou à travers d'autres. Et j'ai accueilli Nadia Comaneci à Bercy, des gens simples et qui étaient contents d'être présents. Et ça vous prend quand même, c'est satisfaisant. Ouais. Et quand on le fait en tant que volontaire, bénévole, et que tout le monde partage cette façon de faire, et ben, que ce soit même les des grands ou des moins grands, et ben, c'est toujours très, très sympa.
Écoutez, on est en train de parler de la cérémonie et de chanteuse. Alors, on va faire la pause musicale avec ton choix, Sophie. Et je crois que la transition est assez vite faite. Mais vas-y, présente-nous ton choix.
Oui, alors, mon choix, c'est porté sur Céline Dion et l'hymne à l'amour chanté à la fin de la cérémonie, au-delà même de la performance de Céline Dion, incroyable. C'était aussi iconique. Voilà, on l'écoute.
On écoute Céline Dion.
Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, et m'apportent les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Oh, la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, et m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons
vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Nous souhaitons mettre en valeur des bénévoles de Paris 2024 engagés par ailleurs dans le sport, notamment sur la place des femmes. Nous sommes toujours en studio avec Dominique Le Breton, volontaire sur les Jeux et vice-président du Paris FC en charge de l'équipe féminine et du centre de formation des féminines. Anne Douézy, volontaire sur les JO et secrétaire de la section de tennis de table du Levallois Sporting Club. Et Sophie Courrouble, volontaire de Paris 2024 et bénévole sur les événements sportifs tout au long de l'année. Alors, moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment vous êtes arrivé sur ces missions. Qu'est-ce que vous avez fait avant et pourquoi répondre à cette sollicitation de Paris 2024? Donc, on va commencer avec toi, Anne. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, ton parcours.
Pendant toute ma carrière professionnelle et mes deux enfants, je n'ai pas pu faire de bénévolat et je m'étais mise en tête que lorsque je serai à la retraite, je me lancerai dans le bénévolat. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par être écrivain public, ce que je suis encore aujourd'hui, dans une association qui est le relais amical Malakoff Humanis. Je consacre 3 jeudis par mois à cette activité pour aider les gens de plus en plus qui sont victimes de la fracture numérique, qui n'ont pas accès aux différentes technologies, et donc pour les aider, aussi bien pour des dossiers de retraite que d'aides diverses et variées. En même temps, je me suis dit que je voulais absolument faire du ping, donc je me suis inscrite au Levallois Sporting Club, section tennis de table, et j'y ai trouvé une convivialité, une chaleur terrible, ce qui fait que à peine 2 ans après mon arrivée, on m'a proposé d'être secrétaire de la section, et je suis à mon 2e mandat de secrétaire. J'ai ensuite voulu que l'on passe la qualification d'arbitrage, donc je suis devenue arbitre régionale, et depuis 2 ans compétitrice niveau pré-régional avec des très jeunes filles que j'ai adoré accompagner. Je suis pas coach, hein, je suis pas technicienne, mais en tout cas les accompagner, des jeunes filles de 8, 10, 12, 14 ans. Et j'ai éprouvé un bonheur terrible à les voir progresser, à les voir continuer et à s'éclater en gagnant ou pas d'ailleurs. Pas tout le temps.
Alors, il se passe quelque chose au tennis de table, hein, sur ces jeux. Bon, notamment avec les frères Lebrun, mais pas que. On a vu Zizou au tennis de table. On a vu un basketteur américain, Thérèse Haliburton, tweeter « Les Lebrun sont électriques ». On a des ministres démissionnaires qui tenaient à aller dans la salle. Il va y avoir un boom à la rentrée, alors pas qu'au tennis de table, j'espère, et dans tous les sports. Est-ce que les clubs de tennis de table seront prêts ?
Ah ben on est prêts. Il est vrai qu'on était le club, je crois, avec le plus d'adhérents avant le Covid. On a perdu quelques adhérents depuis cette période-là. Aujourd'hui, si j'ai bien regardé hier ou avant-hier, on est le 3e club français et on est tout à fait prêt à accueillir tous les jeunes ou moins jeunes qui voudraient venir au club. D'autant qu'on a aussi des sections sport santé, puisqu'on a le ping for Alzheimer et le ping for Parkinson. Et que bah, ça permet aux petits de 3 ans jusqu'aux plus anciens de 80-85 ans de pratiquer la discipline dans d'excellentes conditions, puisqu'on a une magnifique salle qui nous permet d'accueillir tout le monde.
Donc le ping avait battu son record de licenciés cette année avec 228 000 licenciés. Il est prêt à accueillir plus. Je pense que beaucoup de disciplines vont attirer, mais le ping, ça va bien marcher. Sophie, alors toi, il y a eu un déclic, je crois, à l'Euro 2016, je le disais au début. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et puis la suite?
Oui, alors en fait, moi, je suis plutôt tenniswoman au départ, et en étant pratiquante à un niveau très modeste départemental, mais passionnée, et puis du coup passionnée d'événements sportifs depuis toujours. Les JO, j'ai les souvenirs de Nadia Comaneci, pour le coup, en 76, c'est mes premiers souvenirs des JO. Et donc j'ai toujours été engagée dans le sport, soit en pratiquant, soit assez rapidement devenant en fait bénévole, notamment en créant l'association des supporters des équipes de France de tennis, de Coupe Davis et de Fed Cup.
Nous expliquer
En 2000, oui. En fait, bah, passionné de tennis, je suis allée suivre des rencontres au départ en solo. Et j'ai fait des rencontres dans les tribunes de gens qui avaient l'air aussi passionnés que moi. Et de fil en aiguille, en fait, on a fini par se regrouper. Et puis, plus ça allait, plus la tribune grimpait. Et donc, on a fini bah, dans les bureaux de la Fédération Française de Tennis avec Christophe Fagnès, qui était directeur des Coupes Davis à ce moment-là. Avec le déclic aussi de Guillaume Raoux, qui était un des joueurs de Coupe Davis de l'époque et qui voulait une claque en fait dans les tribunes. Et donc on a regroupé un certain nombre de personnes et on a créé une association en 2000, sachant qu'on avait commencé en 97, donc on a mis 3 ans pour créer cette association. Et puis ben, en plus on commence en 2000, enfin 2001 la première année, avec une finale à Melbourne de Coupe Davis, vainqueur. On était une centaine là-bas et c'était un truc assez fou. Et donc j'ai continué une dizaine d'années avant d'arrêter. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je continue, que d'une manière ou d'une autre, que je fasse quelque chose dans le monde associatif ou de bénévolat, d'engagement. Et pas très longtemps après, arrivé l'Euro 2016, donc je me suis inscrite comme pour participer en tant que bénévole. Et je suis tombée dans la marmite. En fait, je suis tombée dans une super équipe, un événement top. Et on m'a expliqué que tous les jours, tous les week-ends, on cherchait du monde pour faire des événements sportifs. Et donc, voilà, je suis partie comme ça, une course, puis une autre, et puis un événement qui arrivait, puis un autre et un autre. Et je crois que j'ai compté une soixantaine d'événements depuis 2016, de gros événements qui vont de la Coupe du Monde de rugby pour la dernière, ou au Championnat du Monde de VTT OG il y a 2-3 ans. Voilà. Et donc, les JO, c'était une évidence pour moi d'y participer.
Et ça t'a pas écœuré? Tu continueras?
Je continuerai, mais c'est vrai qu'un certain nombre de personnes m'ont dit que c'était pour eux un peu le Graal, et qu'ils allaient sans doute arrêter après. Et il y a des petites craintes pour certains bénévoles de se dire comment ça va se passer, parce que là, on sait qu'il y a eu un vrai coup de fouet. Mais dès février 2025 ou janvier 2025, il y a les championnats du monde de cross, de vélo, qui sont organisés à Liévin, si je ne m'abuse. Et les inscriptions sont déjà ouvertes.
Notre réalisateur, rappelle l'animateur de Rayon Libre, hoche la tête.
Voilà, et donc je me suis déjà inscrite, et je sais qu'un certain nombre de bénévoles sont déjà inscrits pour... voilà, donc on continue.
Alors Dominique, moi j'ai lu que tu voulais arrêter ta carrière de bénévole sur événements sportifs, c'est vrai ça?
Je le confirme. Je fais partie peut-être de ces sujets qu'on vient d'évoquer. Là, je pense que quand on a... j'ai 65 ans, j'ai vécu près de 40 ans à travers le sport, de directeur des sports à Créteil, de directeur des sports de l'Essonne. J'ai vécu les Jeux de Pékin, les Jeux de Rio, on n'a pas fait Tokyo parce qu'on ne pouvait pas y aller, voilà. Mais bon, j'ai fait des Coupes du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande et tout. Et donc, dernièrement, j'ai fait les championnats du monde à Budapest d'athlétisme, les championnats du monde de ski à Courchevel, à Méribel.
Ah, comme Sophie.
J'étais aux accréditations déjà.
Alors moi, j'étais en bas des pistes. Et j'ai fait la Coupe du Monde de rugby également. Je suis un ancien rugbyman et tout. Donc, je me suis dit qu'à mon avis, il fallait s'arrêter sur quelque chose qui était une vraie note dans ma carrière, et que c'était les Jeux Olympiques. Et puis... moi, je pars sur d'autres champs. Je suis toujours engagé associativement, bien sûr, en tant que responsable au niveau du Paris FC. J'ai d'autres engagements associatifs dans de l'éducation à travers le sport. J'ai envie de développer.
Je te vois pas arrêter là-dessus.
Non, je n'arrêterai pas sur l'éducation à travers le sport, l'insertion à travers le sport, sur des points. Mais les événements, je les suivrai peut-être, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément évoqué. Et pourtant, c'est compliqué pour des volontaires ou des bénévoles comme nous. C'est qu'on doit faire attention et pas être supporter à la fois. Et alors on doit faire attention. Et puis quand le frère Lebrun ou un autre marque un point, on devrait rester un peu stoïque. Alors c'est compliqué quand on est supporter, bénévole, volontaire et tout ça. Donc à mon avis, j'ai envie d'être un peu plus supporter que volontaire. Voilà.
Bon, l'année prochaine sur le Paris FC, il ne faudra pas l'être trop. Hein. Il y a un autre club qui veut en Ligue 2, hein, le FC Metz dont je parle de temps en temps.
Ouais, on fera le derby, hein. Karine, on fera le derby. On t'invitera. Tu seras invité d'honneur.
Tu trouveras une supportrice,
voilà,
en face.
Pas de problème.
Puisqu'on parlait de cette question de supporter, tu nous disais, Anne, que c'était le moment fort, mais tu arbitres aussi. Est-ce que ce challenge, tu l'as aussi, de ne pas être trop supportrice?
J'avoue que là, c'est très très compliqué. On nous a en effet donné des consignes de rester le plus neutre possible, mais il y a des moments c'est trop compliqué et on se lâche un peu. Et c'est vrai que moi j'arbitre, je suis petite arbitre régionale, donc j'arbitre dans mon club et j'arbitre nos équipes. Et je dois dire que c'est très compliqué de ne pas réagir quand je les vois soit gagner, soit perdre. Mais bon, ça va avec le job, donc il faut le faire.
Et Sophie, quand on est, par exemple, dans les équipes antidopage, au cyclisme ou ailleurs, et qu'on est vraiment avec les sportifs qui viennent de gagner, Comment ça se passe?
C'est en fait la même manière, on reste le plus stoïque. On a une très très grosse fierté intérieure, j'avoue, et notamment par exemple au G où on était, on allait jusque derrière le podium pour suivre les athlètes, donc c'était limite si on avait la Marseillaise aussi pour nous, puisqu'il y avait en plus énormément de victoires françaises. Donc on prend, mais on lâche rien, voilà, ouais, officiellement. Et puis après, par contre, après, on lâche et on partage avec tout le monde. Et sinon, on arrive à se contenir, mais c'est pas toujours simple, mais c'est totalement énorme comme moment. Donc, on les vit pleinement.
Alors, on va reparler de vos missions, de la place de la femme dans le sport, hein, c'est important, et du Paris FC, n'est-ce pas, Dominique. On va faire une pause musicale avec ton choix, Anne, et justement qui va faire une transition avec la suite.
Absolument, donc moi j'ai choisi le « I Will Survive » de Gloria Gaynor, pas celui des Bleus en 98, hein, qui, si on écoute bien les paroles, raconte l'histoire d'une femme qui a décidé de sortir d'une relation toxique. Et j'espère que toutes les femmes qui sont dans des relations toxiques arriveront à s'en sortir.
Eh bien, on l'écoute. Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Nous souhaitons mettre en valeur des bénévoles de Paris 2024, engagés par ailleurs dans le sport, notamment sur la place des femmes. Nous sommes toujours en studio avec Dominique Le Breton, volontaire sur les Jeux et vice-président du Paris FC en charge de l'équipe féminine et du centre de formation des féminines. Anne Douézy, volontaire sur les JO et secrétaire de la section de tennis de table du Levallois Sporting Club. Et Sophie Courrouble, volontaire de Paris 2024 et sur beaucoup d'événements, cofondatrice de l'association des supporters des équipes de France de tennis. Alors, comme promis, on va parler maintenant spécifiquement de la place des femmes dans le sport. Et on va commencer avec un homme très engagé, Dominique. Donc, tu es en charge de l'équipe féminine et du centre de formation des féminines. Et chaque fois que je t'ai au téléphone, il est beaucoup question de la médiatisation du sport féminin. Et c'est vrai que tu peux peut-être nous rappeler la grosse saison qu'a fait le Paris FC.
Oui, alors ça fait... Le Paris FC a une histoire qui est liée avec l'ancien club de Givisy sur Orge dans l'Essonne, hein, puisqu'il y a une fusion entre les deux clubs qui a permis au Paris FC d'avoir une équipe de haut niveau ou dès aujourd'hui qui est basée sur un projet qui n'est pas basé que sur le sport professionnel, mais sur le double projet avec un aménagement pour les filles pour leur identité professionnelle et ou leur identité de leur formation. Bah, les filles ont fait une très belle saison puisqu'elles terminent troisième du championnat derrière l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et on est de plus en plus près puisque le Paris Saint-Germain ont fait match nul avec eux. L'Olympique Lyonnais, on perd que 1-0 chez eux. Et ils ont fait la Coupe d'Europe en éliminant le Real de Madrid, etc., etc., en Ligue des Champions. Bien sûr, on a encore un volet en dessous, mais nous, on souhaite pas être le club professionnel qui recrute des joueuses pour recruter des joueuses et monter d'un niveau. Et on axe tout sur notre centre de formation, puisque les 20 filles qui font le groupe de la D1 féminine, 11 viennent de notre centre de formation.
C'est exceptionnel.
Et aujourd'hui, c'est ça, et ça sera encore mieux encore demain. Les deux sélectionnés qui n'ont pas été retenus par Hervé Renard, et je ne vais pas revenir sur la sélection d'Hervé Renard pour les Jeux Olympiques, mais les deux qui avaient été présélectionnés étaient deux filles qui sortaient de notre centre de formation. Et donc, ce qui est intéressant,
c'est... Vous avez quand même une joueuse dans l'équipe du Nigeria.
Oui, oui, la gardienne de but, ouais. Kamaka, qui a été élue meilleure gardienne de D1 l'année dernière. Et qui jouait hier d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais je pense que c'est...
Défaites.
Comment ?
Je sais qu'il y a eu deux défaites, mais c'était le troisième match.
Mais comme ça, elle reviendra vite faire au club, hein, on en a besoin. Et, parce que les filles ont repris l'entraînement. Donc, à un moment donné, c'est un club qui est basé en licenciée féminine. On est le premier club de France en nombre de licenciées féminines parce qu'il n'y a pas que le haut niveau. Même si on a plus de 20 sélectionnés en équipe de France, toutes catégories confondues, il y a aussi toutes nos bouts de choux, toutes nos écoles de la porte de Montreuil jusqu'à l'aéroport, aux pistes d'Orly. On a nos équipes de football qui grandissent.
Ce qui fait en tout, tu sais combien vous avez de féminines en tout ?
On était à 800 l'année dernière.
Ouais, ce qui est énorme. Alors ça, c'est sur vos licenciés de toutes catégories. Et donc, sur la médiatisation du foot féminin, j'y reviens.
Il y a plusieurs points là-dessus, parce que bon, la Ligue professionnelle vient d'être créée, Jean-Michel Aulas est président de cette Ligue professionnelle, donc ça amène quand même des mannes financières au club, hein. Ça n'a rien à voir avec le foot masculin.
Est-ce que nos auditeurs doivent vraiment comprendre.
Ça n'a rien à voir, c'est même pas du simple au double, hein. C'est même pas du simple au 10, hein. Donc les droits télé autour de 300 000 ou 400 000 euros pour une équipe féminine qui est autour de 10 millions pour une équipe masculine. Donc là, on n'est pas dans les mêmes catégories. Et aujourd'hui, la médiatisation, c'est aussi Canal+, qui aujourd'hui a ce point, mais qui nous oblige à jouer à des horaires auxquels c'est difficile de faire venir des spectateurs. Alors un mercredi après-midi pour un match de Coupe de France pour des amateurs, parce que c'est quand même des amateurs, c'est quand même compliqué.
Complètement dingue même.
Complètement dingue de venir un mercredi à 15h à Charletti pour voir un Paris FC Lens en Coupe de France. Alors faire venir les joueuses de Lens, les pauvres joueuses de Lens en plein milieu d'une après-midi, ça veut dire que les gens ont dû poser demi journée de congé ou je ne sais arranger avec leurs employeurs ou leurs formateurs. Et tout, donc ça, il y a un point. Puis un deuxième point, c'est que bon, il y a des discours très, je dirais, politiques très forts sur l'égalité femmes-hommes, mais on s'aperçoit que à travers le sport, même s'il y a eu des améliorations, il faut pas nier qu'il y a des améliorations. Mais aujourd'hui, il faut que les fédérations et la Fédération française de football, au-delà de se donner de bonne conscience par des textes ou des choix, le fassent concrètement sur le terrain en aménageant et en accompagnant les filles vers cette médiatisation. Et moi, je regrette qu'un journal comme l'Équipe, par exemple, de temps en temps, on voit trois équipes qui se qualifient en Ligue de Champions au football féminin. On aura 6 pages ou 10 pages sur le Paris Saint-Germain et on aura un filet ou un quart de page pour montrer les trois équipes féminines. Donc, à un moment donné, il n'y a rien à envier dans la qualité du football donné.
Hein, quand vous voyez un Real de Madrid Paris FC, eh ben c'est vraiment du haut niveau. On a éliminé Arsenal cette année, on a éliminé Wolfsburg. Eh ben c'est en Allemagne, on a joué, il y avait 15 000 personnes dans les tribunes. Au Real, sur le stade annexe de Santiago Bernabéu, il y avait 20 000 personnes. Hein, et on gagne 1-0 au Real. Donc, à un moment donné, c'est vraiment que l'on veut pas. Et quand on a accueilli le Real à Charletti, on a fait 12 000. Donc, à un moment donné, le foot peut marcher quand les horaires sont adaptés et quand la médiatisation est portée.
Alors, à ce propos, hein, on est sur des jeux paritaires, je le rappelle, avec égalité pour la première fois d'athlètes hommes et femmes. Ceci dit, j'ai lu hier que le diffuseur officiel des jeux avait appelé les cadreurs à filmer de la même manière hommes et femmes pour lutter contre la sexualisation. On sait que c'est un problème depuis longue date, mais qu'on en soit encore là aujourd'hui, on montre que même sur des jeux où sont comptabilisées de la même manière les médailles des hommes et des femmes, et donc où on regarde autant a priori les uns que les autres, ou les unes que les autres. Il y a encore du boulot. Est-ce que ça va dans le bon sens quand même? Est-ce que cette Ligue Pro, t'y crois?
Ben moi, je veux bien y croire, parce qu'en plus, pour nous, ça nous amène des partenaires supplémentaires qui fait que financièrement, en gardant le type de projet, ça veut dire que les filles devraient tous professionnelles, elles devraient tous sous contrat. Mais un contrat, ça part d'un SMIG. Et ça, tout.
Hein, on n'est pas sur les salaires d'Al Papé.
Et ça peut être des salaires à 5 chiffres pour les footballeuses de Lyon ou du Paris Saint-Germain. Nous, Paris FC, on n'a personne à 5 chiffres. Mais, et tout. Donc, à un moment donné, ça peut faire avancer. On est obligé, quand on mène un type de projet comme ça, de travailler avec les filles sur leur double projet. Parce que le football masculin, quand vous avez fait une grosse carrière, vous pouvez en vivre jusqu'à la fin de vos jours. Le football féminin, quand vous avez fait une grosse carrière, même si vous avez 100 sélections en équipe de France, eh ben, vous pouvez pas faire, vous en vivrez pas après. Vous pouvez en vivre correctement, mais vous pouvez pas en vivre vraiment. Et tout. Donc, aujourd'hui, nous, on travaille sur un double projet. L'accompagnement des filles dans une carrière professionnelle via les contrats d'insertion professionnelle ou dans des quartiers dans l'aspect universitaire. Nous, on a une fille qui est en cinquième année de médecine, on a une ingénieure chez Arkema qui est postulante en équipe de France.
Oui, c'est ça.
Et on a deux kinés dans l'équipe, on a une prof de sport avec Gaëtan Tinet qui est archi connue sur le monde du sport. Mais on ne leur empêche pas de continuer à faire cette carrière professionnelle, sachant très bien qu'avec leurs employeurs, nous, on a passé un contrat avec leurs employeurs qui puissent les libérer pour qu'on puisse jouer la Coupe d'Europe quand on joue le mercredi à l'autre bout du monde, etc., etc. Et puis, je terminerai par dire qu'à un moment donné, si derrière, on n'a pas ce type de projet-là, les filles, on leur met des contrats d'un an, deux ans, et puis au bout de deux ans, les filles, c'est terminé, quoi. Et ça, c'est impossible dans le contexte sur lequel. Et on a aussi un lien avec les universités. Par exemple, quand on a nos deux sportifs qu'on fait kiné, au lieu de le faire en 4 ans, eux, ils le font en 5 ans. Hein, il y a un aménagement aussi de leur emploi du temps pour permettre de passer un DUT, c'est pas en 2 ans, mais en 3 ans. Voilà, donc ça nous permet aussi de pouvoir les accompagner jusqu'au bout, quoi.
Alors, on a une supportrice, pas que de tennis, de foot aussi. Est-ce que l'un et l'autre, vous constatez une féminisation des tribunes? Est-ce que, parce que c'est important aussi, c'est un autre aspect, c'est pas la médiatisation mais...
J'ai l'impression, oui, qu'il y a effectivement beaucoup plus de femmes dans les tribunes. Et j'ai l'impression aussi une façon d'en parler beaucoup plus libre. Il y a quelques années, quand on était en tant que femme, on parlait de football, on était limite. Je disais, mais c'est bizarre, une femme qui parle de football, déjà, aucune légitimité. Au niveau technique, on nous disait non, mais on va pas aller sur le terrain technique. Et j'ai l'impression aujourd'hui, et je pense que ça a démarré, je parle au niveau du football, déjà avec la Coupe du Monde 98 qui a été en France une révélation pour beaucoup de femmes qui se sont mises à regarder le foot, je pense. Et effectivement, aujourd'hui, alors moi je vais dans les tribunes de l'autre club de Paris, du Paris Saint-Germain, je vois effectivement pas mal de femmes dans les tribunes. Et effectivement, avec aujourd'hui des conversations qui me paraissent être très simples. On parle foot de la même manière que que les hommes. Je crois qu'on est reconnu aujourd'hui pour échanger au niveau technique parfois.
Oui, je suis d'accord avec toi, on vient de loin là-dessus.
Oui, oui. Mais voilà. Et donc, mais effectivement, au niveau du foot, il y a cette place. Alors moi, je le disais tout à l'heure, je suis le tennis. Là, il y a eu Roland-Garros il y a un mois et demi. Et donc, on a des sessions nocturnes aujourd'hui à Roland-Garros. Et cette année, il n'y a eu aucune session nocturne avec un match féminin. Alors certes, c'est des matchs qui sont sur 2-7 et pas 3-7 et qu'il y a un seul match en session nocturne. C'est Amélie Mauresmo qui est la directrice du tournoi et qui est quand même voilà, qui est une ambassadrice plus du sport féminin. Malgré tout, de sa place, elle n'a pas réussi, je ne sais pas pour quelle raison, à positionner un seul match féminin, alors que tout le monde s'accorde à dire que le plus beau match de la quinzaine, que j'ai eu la chance de voir en plus, c'était Świątek contre Osaka au deuxième tour, un match qui a été fabuleux, mais il était en milieu d'après-midi. Et voilà, donc il y a du chemin encore à faire et sur le tennis aussi. Donc.
Mais quand vous aviez créé l'association de supporters, si je ne me trompe pas, tu as le droit de me déjuger, pour la Fed Cup, c'était des femmes, c'est la partie supportrice qui allait à la Fed Cup et la partie club de supporters hommes de la Coupe Davis qui ont fusionné, c'est ça?
En fait, la rencontre, oui, au départ, effectivement, quand on suivait et Fed Cup et Coupe Davis, les supporters qu'on emmenait étaient beaucoup plus féminins sur la Fed Cup et beaucoup plus masculins sur la Coupe Davis. Et nous, on a eu cesse au niveau du bureau de militer et de pousser l'ensemble des supporters à aller voir les deux rencontres, ce qui s'est fait plus ou moins, mais effectivement, il y a encore un petit peu de chemin à faire.
Dominique, vous êtes passé par la gratuité des tribunes à l'IFC. Pour les hommes comme pour les femmes, c'est ça? Pourquoi les joueurs?
Pour continuer sur la même lancée, est-ce que c'est une tribune féminine ou une tribune masculine? Moi, je trouve que sur le sport féminin, il y a une tribune famille.
Oui.
Mais c'est beaucoup plus famille.
Comme sur les jeux, d'ailleurs.
Ouais, c'est exactement, c'est même d'ailleurs le même public. D'ailleurs, il y a le soir du ticket, d'ailleurs. On a eu, nous, des problèmes avec les tickets pour les enfants, puisqu'il n'y avait pas de ticket pour les enfants. Il fallait prendre des tickets aussi pour les enfants, même de bas âge. On a eu quelques soucis là-dessus. Pour faire comprendre aux gens comment ça se passait, mais sur le foot féminin par rapport au foot masculin, parce que je peux comparer, puisqu'on a une équipe professionnelle en Ligue 2 au Paris FC, c'est un public beaucoup plus famille pour le foot féminin. Et pour parler de la gratuité, oui, on s'est posé la question de savoir. On faisait 4, 5 000, 6 000 places pour le foot et on disait est-ce qu'on peut pas tenter une chose, faire ce qui ne s'est jamais fait en France, une fois en Europe, en Allemagne, et ben rendre l'accès aux tribunes gratuites. Et aujourd'hui, on fait le foot, que ce soit en Ligue 2 ou en D1 féminine. On le fait pas en Coupe de France parce que la Fédé nous impose une recette de billetterie. Eh ben, on fait l'accès aux tribunes gratuit pour tout. Et là, on a un public qui change également, même dans le foot masculin, où en fonction des horaires, bien sûr, de match, eh ben, on a un public beaucoup plus familial qui vient découvrir le foot masculin et tout. Et on impose d'ailleurs à nos garçons d'avoir une tenue par rapport à ce public, d'aller le saluer en amont et en aval des matchs pour permettre d'avoir ce lien qui est ce lien qu'on souhaite par rapport, et pas, j'ai pas de polémique dans ce que je vais dire, par rapport au Paris Saint-Germain on joue pas dans la même cour, donc on peut pas comparer, mais on souhaite quand même garder ce club un peu famille d'Île-de-France, et c'est ça qu'on arrive à développer avec la gratuité.
C'est important. On va parler tennis de table aussi, parce que sur le papier, ça a l'air d'être un sport tout à fait haut. Moi, je sais que je suis allée pratiquer le tennis de table parce qu'on pouvait s'entraîner hommes et femmes ensemble, aussi en intergénérationnel d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, Anne. Mais il n'y a que 20% de filles licenciées au tennis de table. Est-ce que, pourtant, on a un président qui loue les résultats des filles qui ont été médailles de bronze au championnat du monde par équipe. Est-ce que les clubs travaillent là-dessus? Est-ce que...
Alors, c'est sûr qu'il y a une volonté, mais c'est vrai aussi qu'on est face à des chiffres qui sont ce qu'ils sont, quoi. Donc oui, on n'a que 18 et 20% de filles dans le club. Et sur les compétiteurs, il y a 120 compétiteurs, il y a 10 ou, allez, maximum 15 filles compétitrices. Il est évident que lorsqu'il y a des matchs à domicile, bon, on a une salle où il n'y a pas de gradin, donc c'est difficile d'accueillir un public très très nombreux, mais il y a toujours beaucoup plus de monde pour les garçons que pour les filles, ça c'est clair.
Par contre, on n'a qu'un public mixte, il me semble, non?
Oui, oui. Non, et même, c'est vrai que Jean-Michel, notre président, souhaite vraiment développer mais la féminisation du club, mais c'est pas facile.
Alors, il y a des dirigeantes au bureau, au moins une secrétaire, il y en a d'autres, c'est équilibré.
Oui, il y a une. Notre comptable, non, on ne dit pas comptable,
trésorière.
Elisabeth est notre trésorière. Donc, on est deux sur six au niveau du bureau, et c'est vrai que. On fait le maximum.
Il faut créer encore des vocations aussi dans les cadres techniques, les entraîneurs, les arbitres, il y en a.
Alors, des arbitres, il y a toi et moi, femmes dans les arbitres du club. Non, il n'y a que nous deux. Ah. Au niveau du club, en tout cas, il n'y a que nous deux et il y a quelques hommes aussi.
Mais, donc, il y a encore du boulot sur ça.
Ah, il y a énormément de travail à faire encore, oui,
c'est sûr.
S'il
y a moins de licenciés, c'est plus dur, mais c'est vrai que quand on voit sur la formation des cadres techniques, il faut encore créer des vocations. Il y a les frères Lebrun. Il y a les sœurs Lutz aussi,
oui,
qui ont fait la finale en championnat de France.
Il y a Pritika, il y a Gianne. Il y a un très bon niveau au ping féminin actuellement.
Il y a un haut niveau et des storytelling à écrire aussi.
Absolument. Et des encouragements à leur porter en permanence.
Donc, on le rappelle, par contre, les jeux sont paritaires. Est-ce que dans vos équipes de bénévoles aussi, c'est paritaire?
Ouais, c'est paritaire, oui.
Oui, c'est paritaire et c'était une volonté de l'organisation.
Et nous, on l'a vu lors de la journée de formation, on était 50-50%.
Ah oui, même sur une des journées de formation, compté.
Non, on était, il y a 50% de femmes et 50% d'hommes dans les volontaires.
Donc ça, c'est respecté aussi.
Oui,
je sais que dans les équipes de salariés également. Dans le public, on a dit c'est familial, donc on peut peut-être espérer que avec les booms des jeux dans tous les sports, on aura dans nos clubs beaucoup de filles qui viendront s'essayer au loisir comme à la compétition. Je vous remercie tous les trois. Merci donc à nos trois invités, Anne Douézy, Sophie Corrouble et Dominique Le Breton. Un grand merci à Jérôme Sorel pour la réalisation. Des jeux paritaires, ce sont des jeux, donc on l'a dit, avec autant de femmes que d'athlètes, mais pas possible de conclure une telle émission sans mettre les athlètes féminines aussi en valeur. Nous avons choisi de mettre en avant Simone Biles, la gymnaste américaine. 8 ans après son sacre à Rio, 4 ans après son renoncement à Tokyo, elle rebrille à Paris et retrouve l'or. Rappelons qu'entre-temps, elle a dénoncé les viols de l'horrible Larry Nassar qui a fait souffrir au moins 250 jeunes femmes, majoritairement mineures. Elle a été victime aussi de racisme. Bravo à cette immense star aux 6 médailles d'or. Nous sommes très heureux de retrouver son sourire et elle nous redonne le sourire. Merci à elle. Enfin, nous avons parlé des problèmes de médiatisation des femmes. Clin d'œil aussi à Femmes Journalistes de Sport. C'est une association qui défend les femmes qui doivent aussi se battre pour exister dans le sport. Pas sur Cause Commune, oui, là. Pas de problème. Dimanche, je serai au Club France pour un séminaire donc, de femmes journalistes de sport pour témoigner et accompagner des étudiantes journalistes. Nous vous remercions pour vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn Karine Bloch. Nous nous retrouverons à l'occasion des Jeux Paralympiques fin août, puis en septembre. Nous ferons le bilan des Jeux en termes d'impact social et traiterons surtout de la suite avec les acteurs en charge de l'héritage. Comme promis, nous restons vigilants sur cette question essentielle. Mais d'ici là, nous vous souhaitons de bons jeux, bon sport à toutes et à tous. À très vite.
Et Lormanodou qui accélère, Lormanodou qui termine, Lormanodou est championne du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga. Attention,
saga Africa.
Sport has the power to change the world. It has the power to unite people.